Chapitre 35. À bout de souffle. Il y a un instant où la mort a toutes les cartes, et où est là-bas d'un seul coup les quatre as sur la table. Christian Bobin. Williamsburg, Macondo Motor Club, 23h. Un calme trompeur régnait dans le loft qui surplombait le garage. Installés devant les écrans d'ordinateur, Blythe, Blake et Madeline poursuivaient leurs analyses de données. Debout face à la baie vitrée, Danny se rongeait les seins, fumant cigarette sur cigarette. Deux agents montaient la garde. Le premier, installé devant la porte de l'appartement, le second patrouillant autour du garage au milieu des flocons qui tourbillonnaient dans la nuit. Presque imperceptible, un tintement métallique annonça à Madeline l'arrivée d'un SMS. Elle jeta un rapide coup d'œil à l'écran. « Je sais qui a enlevé Alice. Viens me retrouver au Life and Death, à l'angle de la 10e avenue et de la 20e rue. Viens seul. Surtout, n'en parle à personne. Jonathan. » Totalement incrédule, elle crut d'abord à un stratagème de Jonathan pour la revoir. Mais jamais il n'aurait instrumentalisé un tel drame. Peut-être avait-il réellement découvert quelque chose. Dans ce cas, pourquoi ne pas lui avoir téléphoné au lieu de chercher à l'attirer dans un bar?
Tu me prêtes ta voiture, Danny?
Tu sors?
Je vais faire une course,
affirma-t-elle en enfilant sa veste de cuir. Elle récupéra le sac à dos contenant l'ordinateur portable de Jonathan et suivit Danny dans l'escalier en fonte qui menait au garage. Sous la surveillance du garde du corps, ils traversèrent le hangar qui regorgeait de voitures de collection.
« Prends celle-là »
dit-il en désignant une Pontiac rouge vif de 1964.
« Tu n'aurais pas quelque chose de moins voyant ?»
Elle tourna la tête et plissa les yeux à la recherche d'un modèle plus discret.
« Pourquoi pas celle-ci »
proposa-t-elle en montrant un cabriolet Peugeot 403.
« On dirait la voiture de Colombo. »
« Monte dans la Pontiac » insista-t-il.
Elle comprit qu'il valait mieux ne pas s'obstiner et s'installa au volant de la belle américaine. Danny se pencha à la fenêtre.
« Les papiers sont là !»
expliqua-t-il en déployant le pare-soleil. Puis, il pointa la boîte à gants.
« S'il y a un problème... »
Madeline entr'ouvrit le vide-poche pour apercevoir la crosse d'un Colt Anaconda. Elle comprit alors l'entêtement de Danny à lui faire prendre sa propre voiture.
« Tu vas retrouver ton copain ?» demanda-t-il d'un air mauvais.
Elle remonta la vitre en ignorant sa question.
« À plus tard !»
La nuit et la neige ne facilitaient pas la conduite. Madeline hésita à utiliser le GPS de son téléphone, mais choisit finalement de la jouer à l'ancienne. Elle négocia le virage serré qui permettait de regagner le pont et traversa l'East River pour rejoindre Manhattan. Jusqu'à présent, l'adrénaline de l'enquête l'avait tenue éveillée. Mais d'un coup, elle sentit la fatigue accumulée s'abattre sur elle, alourdissant ses mouvements et brouillant ses idées. Ces trois derniers jours, elle n'avait grappillé que quelques heures d'un mauvais sommeil. Ses yeux la brûlaient et elle fut prise d'un bref vertige.
« Putain, je n'ai plus 20 ans !»
se plaignit-elle en essayant de faire marcher le chauffage. À la sortie du pont, elle reconnut la Bowery qu'elle avait empruntée le matin même lors de leur course-poursuite avec Blythe. Elle la remonta jusqu'à Houston Street où le quadrillage impersonnel de la ville reprenait ses droits, rendant l'orientation beaucoup plus aisée. Elle vérifia l'adresse que lui avait donnée Jonathan et se laissa guider jusqu'au Life and Death. Il était déjà tard et la circulation était fluide. Elle éprouva un soulagement en repérant plusieurs places libres au début de la 20e rue, car garer la Pontiac n'était pas une partie de plaisir. Elle traversa le bar et repéra Jonathan assis devant un verre vide.
« Tu es venu seul ?» s'inquiéta-t-il.
« Comme tu me l'as demandé. »«
Du nouveau sur Alice ?»«
Pas vraiment. »
Elle s'assit devant lui et dénoua son écharpe.
« Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi prétends-tu savoir qui l'a enlevé ?»«
Juge par toi-même, » répondit-il en lui tendant le sous-verre.
Elle regarda le carton pendant une dizaine de secondes.
« Et alors ?»«
Scar !»
s'écria-t-il.
« La cicatrice, en anglais !»« Oui, merci, c'est ma langue maternelle, je te signale. »« Blythe !» C'est Blythe qui a enlevé Alice. En tout cas, c'est ce qu'elle cherche à nous faire comprendre. Blythe est complice des Mexicains. »
La moue dubitative de la jeune femme doucha l'excitation de Jonathan.
« Tu te crois dans le Da Vinci Code ?» se moqua-t-elle. « Pour toi, c'est un hasard. Quatre lettres, ça ne veut rien dire. »
Mais Jonathan n'était pas prêt à abandonner.
« Réfléchis 30 secondes. Je crois que c'est à ma portée. Mets-toi à la place des Mexicains. Qui chercherais-tu à retourner prioritairement dans cette affaire ?»«
Dis-moi. » »«
La marshal chargée de la protection de Danny, bien sûr. »
Elle semblait toujours aussi sceptique, mais il continua. Aux États-Unis, les cartels mexicains tentent d'infiltrer toutes les agences de maintien de l'ordre. Les gardes frontières, l'immigration, les douanes. De plus en plus de fonctionnaires américains se laissent corrompre, et la crise n'a rien arrangé.
Blythe Bliss est une patriote, contra Madeline. Elle a le profil idéal, au contraire. Elle a travaillé en infiltré chez les narcos. Au bout d'un moment, tu perds tes repères. Et quand on te propose des millions de dollars, le patriotisme, tu t'assois dessus.
Tout homme a un prix, pensa-t-elle en se souvenant des paroles de Danny. Gagnée par le doute, elle regarda d'un autre œil les majuscules qui formaient le mot Scar.
Se pourrait-il qu'Alice ait eu la présence d'esprit de faire passer un tel message?
Il faut avertir Danny, trancha Jonathan. Il est menacé.
Madeline sortit son portable dans lequel elle avait enregistré le numéro de Danny. Après une brève hésitation, elle se résolut à lui envoyer un message.
Méfie-toi de Blythe. Peut-être retourné par les narcos. Contacte le FBI. Sois très prudent, tu es en danger. Madeline.
Nous, on file prévenir les flics en espérant que tu ne te sois pas trompé.
Quand ils quittèrent la chaleur du bar pour le vent glacé de la nuit, la Ferrari noire les attendait de l'autre côté de la route.
C'est elle!
Ils eurent un mouvement de recul. Blythe avait certainement trouvé louche le départ de Madeline et se doutait que quelque chose se tramait dans son dos.
Je vais voir, décida Jonathan en traversant.
Non, tu es dingue!
Eh merde, pensa Madeline.
Elle courut jusqu'à la Pontiac, se souvenant de l'arme dans la boîte à gants.
Il faisait très sombre.
Jonathan arriva près du Spider, il était vide. Tout feu éteint. Son moteur coupé.
Où est-elle?
Il perçut un mouvement derrière lui. Le cabriolet était garé devant l'entrée d'un parking qui s'élevait sur plusieurs niveaux. Pour maximiser le nombre d'emplacements, un ingénieux système d'ascenseur hydraulique permettait de déplacer verticalement et horizontalement près de 200 voitures empilées les unes sur les autres. Le vent soufflait fort, faisant grincer les piliers métalliques de l'énorme armature. L'endroit était sinistre et donnait froid dans le dos.
« Il y a quelqu'un ?» demanda Jonathan en s'engageant imprudemment dans le parc de stationnement.
« Qu'il est con !»
jura Madeline en le regardant de loin. Elle se hâta de mettre le contact, espérant pouvoir récupérer Jonathan, mais... Trop tard. La détonation claqua et une balle siffla, passant un cheveu du crâne de Jonathan avant de ricocher contre une colonne en acier. Il se jeta à terre, évitant un nouveau projectile. À 20 mètres derrière lui, Blythe le canardait. Il se leva d'un bond et courut sans se poser de questions, empruntant le premier escalier en plein air à l'entrée du parking. Derrière lui, il entendait résonner les pas de la marshale. Elle le prenait en chasse, mais la volée de marche en colimaçon l'empêchait d'ajuster ses tirs. En haut de l'escalier, il se retrouva face à une barrière grillagée haute de 2 mètres. Pas d'autre choix que de l'escalader. Il n'avait plus fait de sport depuis des mois, mais la perspective de finir trucidé fut suffisante pour lui donner la force de grimper à main nue le long de la clôture. Il franchit la grille pour se retrouver sur l'ancienne voie ferrée aérienne qui surplombait le Meatpacking District, autrefois quartier des abattoirs et des boucheries. La ligne permettait jadis aux wagons de marchandises de desservir les entrepôts. La structure était restée abandonnée pendant près de 30 ans, envahie par la végétation avant d'être réaménagée en promenade. L'été, c'était un écrin de verdure qui offrait une vue plongeante sur la rivière. Ce soir, une succession de dalles en béton, hostiles et lugubres.
19e rue, 18e rue.
Jonathan courait comme un dératé. Sur cette première partie, la ligne de tram était rectiligne.
Il était donc à découvert, constituant une cible de choix. À 15 mètres derrière lui, Blythe tira par deux fois. Une balle l'effleura, l'autre fit exploser le mur de protection en plexiglas du côté de l'Hudson. Heureusement pour Jonathan, à 7 heures de la nuit, on avait coupé l'éclairage tout le long du parcours pour ne pas attirer les squatteurs. Madeleine sursauta en entendant les coups de feu. Au volant de la Pontiac, elle guettait par la fenêtre ouverte le moindre mouvement sur la voie ferrée. Les yeux levés vers les jardins suspendus, elle essayait de deviner la progression de la poursuite, roulant au ralenti sur la chaussée qui suivait la Highline. À travers le belvédère vitré qui surplombait la route, elle aperçut furtivement la silhouette de Jonathan et poussa un soupir de soulagement de le savoir toujours en vie. Jonathan avait repris de l'avance. La neige qui tourbillonnait en lourds flocons rendait le sol glissant. La promenade bifurquait à présent vers la gauche, pour traverser en diagonale la 10e avenue, flottant au-dessus des toits, serpentant entre les immeubles en briques, frôlant les façades et les panneaux publicitaires géants. Pour que le lieu garde son authenticité, on avait cru bon de conserver des tronçons entiers de voies ferrées. Deux fils de rails en acier continuaient de courir à découvert au milieu du béton. Gagné par un excès de confiance, Jonathan enjamba une jardinière coulée dans du ciment, d'un saut maîtrisé, mais il se tordit la cheville, se coinçant le pied dans l'une des traverses en bois. Merde ! Il reprit sa course à un rythme plus lent. Blythe s'était rapproché, mais au niveau de Chelsea Market, l'ancienne friche industrielle plongeait dans un tunnel sur un pâté de maisons, offrant un peu de répit aux Français. 14e avenue, Washington Street. Madeleine se faufilait entre les immeubles, gardant un contact visuel avec la structure en acier de l'ancienne friche industrielle. Plusieurs fois, elle fut tentée de s'arrêter au niveau des escaliers qui jalonnaient le parcours, mais, à cette heure avancée, leur accès était bloqué. Elle décida finalement d'aller jusqu'au terminus de la voie et gara sa voiture sur Gainsborough Plaza, en espérant que Jonathan ne se ferait pas descendre avant qu'elle l'ait rejoint. Jonathan sortit du tunnel en haletant. Blythe était à moins de 10 mètres derrière lui. Une douleur aiguë le transperça au-dessous des côtes. En sueur, il continua néanmoins à courir, à en perdre haleine, slalomant entre les massifs de mauvaises herbes. Il arriva au niveau du Sun Deck, la zone réservée à la bronzette où de grands transats en bois brut faisaient face à la skyline du New Jersey. Pour freiner la progression de son adversaire, il renversa méthodiquement tout ce qui lui tombait sous la main. Chaises longues, tables de jardin, bacs à fleurs. Un nouveau coup de feu fit voler en éclats une jarre en terre cuite. Juste à côté. À bout de souffle, il déboula sur la dernière partie de la travée. Il donna ses ultimes forces pour traverser ce passage à la végétation plus fournie. Les arbres hauts et les bosquets empêchèrent Blythe de tirer. Puis, le tronçon s'arrêta brutalement. Jonathan s'engouffra dans l'escalier qui donnait sur Gainsborough Street. Blythe déboula derrière lui. Un dernier grillage à escalader et... Trop tard. Blythe avait sauté presque en même temps que lui. Cette fois, zigzagant au milieu de la rue, il était vulnérable et sans aucune défense. Elle prit son temps pour l'ajuster. À cette distance, elle ne pouvait pas le rater.
Stop ! Posez votre arme ou je fais feu ! Hurla Madeleine.
L'ombre féline de Blythe Blake se retourna, jugeant la situation en un clin d'œil. Madeleine pointait sur elle le colt anaconda de Danny. Sans l'ombre d'une hésitation, la Marshall ignora la menace et se précipita vers Jonathan, l'enserrant à la gorge et posant son arme sur sa tempe.
« Un geste et je le descends !» cria l'Américaine. « Reculez !»
Les deux femmes se faisaient face, chacune campée sur sa position. Une neige épaisse, fouettée par le vent, masquait leurs ombres qui se fondaient dans un ciel lourd. Blythe recula vers la rivière en accentuant sa pression sur le cou de Jonathan. Madeleine avança d'un pas. Les flocons l'empêchaient de bien distinguer la Marshall.
« Si vous le tuez, vous êtes foutu !» cria-t-elle. « Vos copains du FBI seront là dans moins de 2 minutes !»« Pour la dernière fois, reculez ou je le flingue !»« Les agents du FBI, je m'en tape !» J'ai 10 portes de sortie pour les semer. Madeline avait-elle réellement le choix? Si elle posait son arme, Blythe ne leur laisserait pas la vie sauve pour autant. Elle les descendrait tous les deux. La jeune Anglaise cligna des yeux plusieurs fois et sa vision se troubla. La fatigue et le stress refaisaient surface au mauvais moment. Elle sentit sa main trembler. Le canon du revolver pesait une tonne. C'était une arme de mec, conçue pour la chasse ou les séances de tir sportif. Avec ça, elle pouvait tout aussi bien arracher la tête de Blythe que celle de Jonathan. Il suffisait d'une erreur d'un millimètre au moment du tir pour que la balle prenne une mauvaise trajectoire. Et c'était un jeu dans lequel on n'avait pas de deuxième chance. Maintenant, elle tira un seul coup. Anticipant un recul brutal, Madeline mit toute sa force pour maintenir un bras ferme, contrant ainsi le déplacement vers l'arrière du Colt. Touchée en plein crâne, Blythe Blake fut violemment déportée vers l'arrière. Elle tenta de s'agripper à Jonathan, mais l'instant d'après, son corps sans vie bascula au-dessus de la barrière et plongea dans l'Hudson. Le vent soufflait de plus en plus fort, portant le ululement des sirènes de police qui venaient de la rue. Accablée d'un poids immense, noyée au milieu des flocons glacés, Madeline grelottait. Elle venait de tuer la seule personne qui savait où était enfermée Alice. Elle venait de tuer Alice. Sa main toujours crispée sur le flingue, elle n'arrivait pas à quitter l'eau noire des yeux. Jonathan, lui, restait immobile, sous le choc, la chemise éclaboussée de sang. Soudain, il parut sortir de sa transe. Face à lui, Madeline vacillait, ployant sous l'angoisse. Craignant qu'elle ne s'évanouisse, il l'entraîna vers la Pontiac, garée sur Gainsborough Plaza. Il démarra en trombe, observant dans son rétroviseur les éclairs des gyrophares bleus et rouges qui zébraient la pénombre du ciel.